Eh bien, mes amis, en ce samedi après-midi du 24 octobre 81, nous allons envisager le premier âge de la vie chrétienne que nous appelons l'enfance spirituelle. Ce matin, l'Esprit de Dieu a voulu nous poser une question bien précise. Et j'espère qu'elle a occupé vos pensées. Qu'est-ce que la vie chrétienne? La réponse des évangiles et de toute la Bible a été très simple. La vie chrétienne, c'est la vie même de Jésus manifestée dans notre chair mortelle. Nous n'avons pas la vie de Jésus simplement parce qu'on a été baptisé au nom du Seigneur, mais parce qu'on a reçu dans son cœur sa personne et que l'on croit en sa parole. Comme pour avoir la vie humaine, il faut d'abord l'être, de même, avons-nous vu, pour avoir la vie spirituelle, qui est la vie éternel, il nous faut aussi naître de nouveau. Et je vous ai cité l'histoire du grain de blé, dont Jésus nous parle dans le chapitre 12 de Jean, et qui nous montre bien que toute vie sort réellement de la mort. Et c'est très frappant de voir à quel moment Jésus a parlé du grain de blé. Nous lisons dans le chapitre 12 de Jean que vers la fin de son ministère à Jérusalem, il y a des Grecs, non plus des Juifs, mais des Grecs qui sont venus à Jérusalem pour adorer, qui entendent parler de Jésus, qui s'intéressent à ce Jésus et qui s'approchent d'un de ses disciples, Philippe, en lui disant « Nous désirons voir Jésus ». C'est très beau cette expression. Nous désirons voir Jésus. Oh, comme je voudrais qu'il y ait dans vos cœurs ce désir, dans ces heures, de voir Jésus. Alors, Philippe a une difficulté, il est peut-être un peu timide, il y a peut-être aussi des timides parmi vous. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver André, un autre disciple, et il lui dit, voilà ces Grecs qui voudraient voir Jésus. Alors, ils s'encouragent les deux et ils vont à Jésus et ils lui font la demande des Grecs. Les Grecs sont là et désirent te voir. Je pense aussi ici que les uns et les autres, vous devriez un peu vous fréquenter. Si vous vous sentez un peu solitaire, eh bien, voyez votre frère, voyez votre sœur et ensemble, peut-être, faites une prière au Seigneur. André et Philippe se sont mis les deux pour priez Jésus au sujet de ces Grecs. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Oh, cette joie qu'il a. Même les Grecs, même les païens vont aussi avoir la possibilité de connaître le merveilleux salut qu'il apporte non seulement aux Juifs, mais au monde entier. Mais c'est alors qu'il dit, après avoir exprimer cette pensée, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il ajoute, je vais vous lire ces versets, parce qu'ils sont d'une grande importance, et vous comprendrez qu'ils vous intéressent aussi. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Oh mes amis, si nous pensons à cela, voudriez-vous être honoré, vous, par le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous ne trouvez pas que ce serait quelque chose de fantastique? Bien, c'est ce qui est possible. Si vous suivez Jésus, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous honore. Peu m'importe les honneurs du monde. Si le Père de mon Seigneur Jésus-Christ me dit qu'il va m'honorer, et qu'est-ce que cet honneur? Nous sauver. Nous donner une place dans sa maison. Croyez-vous que nous puissions être plus honorés que cela? Au lieu de dire, moi j'ai ma place au cimetière qui est réservée, je vous dis, j'ai une place dans la maison du Père. Et vous pouvez le dire vous aussi, parce qu'il n'y a pas que moi. Si vous croyez, vous avez aussi votre place dans la maison du Père. C'est Jésus qui l'a dit. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. Et il dit, s'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Donc, pas de doute, c'est vraiment celui qui parle en vérité. Alors Jésus est venu, nous l'avons vu ce matin, pour rendre possible notre nouvelle naissance. Mais pour cela, il fallait qu'il nous donne sa vie. Et qu'est-ce que c'est que donner sa vie? C'est mourir. Jésus n'a pas parlé pour ne rien dire. Quand il vous donne l'image du grain de blé, ça veut dire que c'est lui qui est le grain de blé. Et que il n'est pas venu seulement dans ce monde pour nous donner un modèle de vie, parce qu'il était inimitable ce modèle. Il était venu pour nous donner sa vie. Et à mesure qu'il avançait dans son ministère, cette pensée de donner sa vie était de plus en plus devant ses yeux. Et il en parle de plus en plus à ses disciples qui n'y comprennent rien. Oui, eux, ils ont un modèle en Jésus, ils essayent de l'imiter, mais quand il leur dit qu'il doit mourir, qu'il sera élevé sur une croix à Jérusalem, là, ils ne comprennent pas son langage. Et pourtant, ce sont des disciples. Jésus veut donner sa vie, et pour donner sa vie, il devra mourir. C'est du reste pour cela que Dieu a pris un corps. Son œuvre, donc, à Jésus, consistait à nous prendre avec lui dans sa mort. C'est pourquoi il demande, et c'est tout l'évangile, que nous nous quittions nous-mêmes. Vous voulez me suivre? Renoncez à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi. Mais un homme en Israël ou sous le gouvernement romain qui portait sa croix, c'était qui? Un condamné. Et qui allait être lui-même crucifié. Alors, quand Jésus vous dit qu'il vous faut prendre votre croix, et le suivre, ce n'est pas accepter certaines épreuves, c'est consentir vous-même à mourir, à ce qu'il y ait une fin à votre ancienne manière de vivre, pour que vous connaissiez une nouvelle manière de vivre qui sera la sienne, en vous. Il va nous prendre avec lui dans sa mort, si nous nous laissons prendre, hein, et nous entraîner avec lui dans sa résurrection, parce que lui ne restera pas dans la mort. Étant le prince de la vie, il ressuscitera, et s'il ressuscite, il ne va pas nous laisser, nous, dans la mort, mais il nous prend avec lui. Si nous acceptons d'être identifiés à lui dans sa mort, lui nous identifie à lui dans sa résurrection. Mais il faut accepter de mourir. Et c'est peut-être ça qui est difficile. Surtout de mourir en vie. C'est pas si simple, hein. Mourir en vie. Et c'est quand même ça. C'est paradoxal. Mais c'est cela que vous devez saisir par la puissance du Saint-Esprit. Quand un homme accepte Jésus dans sa vie et croit à sa parole, le Saint-Esprit le fait réellement naître à une vie nouvelle. Et de tout cela, le baptême devient une image. Le chrétien, dans les temps primitifs, dans l'église primitive, et cela tous les théologiens de toutes les églises sont d'accord, le baptême suivait l'acceptation du Seigneur Jésus. Quand un néophyte se convertissait, eh bien, il demandait d'être baptisé, et dans ce baptême qui se faisait alors par immersion, eh bien, il confessait que comme Christ était mort et avait été enseveli, lui aussi acceptait cette identification avec Jésus dans sa mort. Et en étant baptisé, il confessait qu'à sa vie passée, il avait renoncé, et comme il ne restait pas dans l'eau, parce que ça aurait été la mort réelle, hein, il ressortait image de Christ ressuscité qui manifestera en lui cette vie nouvelle. L'apôtre Pierre nous dit que le baptême, c'est pas l'effacement d'une tache, d'une souillure, mais que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et alors, une fois que nous avons ainsi reçu le Seigneur, eh bien, c'est l'enfance spirituelle qui commence. Alors, vous avez lu cet après-midi le chapitre 2 de Luc, qui nous rapporte le grand événement qui a donné son nom à notre ère, comme nous le disions ce matin. Jésus est né à Bethléem, qui est maintenant presque un des faubourgs de Jérusalem. Jérusalem et Bethléem vont bientôt être liés. Il y a tellement de constructions que l'on passe d'une ville à l'autre presque sans s'en apercevoir. Oui, il est né dans cette ville de Bethléem. Et si vous aviez lu les versets précédents de ce chapitre 2, c'était donc le chapitre 1, vous auriez trouvé l'annonce faite à qui ? À Marie, la mère bénie de notre Seigneur, qui a été visitée par l'ange alors qu'elle était fiancée à Joseph, mais qui était vierge, ce qui n'est pas le cas de toutes les fiancées d'aujourd'hui. Marie était vierge, tout en étant fiancée à Joseph. Et tout à coup, elle voit un ange, je ne m'en vais pas m'allonger là-dessus, vous connaissez la visitation, le Seigneur a choisi cette femme, mais il ne lui impose pas la mission qu'il lui propose. Il lui annonce qu'elle pourra devenir mère, mais, bien entendu, sans le secours de l'homme. Et Marie, qui a bien arrêté cela dans son cœur, se demande comment cela peut-il se faire. C'est un peu une même question que Nicodème. Comment cela peut-il se faire, hein, naître de nouveau? Comment puis-je devenir mère sans avoir une relation avec un homme? Et l'ange lui dit que le Saint-Esprit viendrait la couvrir de son ombre et que la sainte chose qui naîtrait d'elle serait appelée fils de Dieu. Et il lui rappelle toutes les promesses de l'Ancien Testament, et tout à coup, cette Marie qui était remplie de la connaissance de l'Ancien Testament réalise que la Vierge du chapitre 7 d'Ésaïe, cette jeune fille, c'est elle. Elle savait qu'il y aurait une jeune fille, mais tout à coup, elle comprend que c'est elle. Alors, vous savez, on peut désirer, on peut peut-être avoir désiré être la mère du Seigneur, mais tout à coup, quand vous apprenez que ça vous concerne, c'est une autre affaire, car il y aura des complications. L'ange peut bien lui dire que le Saint-Esprit va venir sur elle, mais Joseph, quand il s'apercevra que sa fiancée est enceinte, qu'est-ce qu'il va penser? Qu'il va croire tout de suite les paroles de Marie? Elle est très gentille, cette Marie, elle est très pieuse, mais même à une fille pieuse, il peut y arriver une aventure, si l'on ne veille pas. Et Marie lui dira, Joseph, je suis enceinte du Saint-Esprit. Mais il n'est pas plus bête que nous. Et il ne croit pas à ça comme ça tout de suite. À un tel point qu'il pensait la répudier secrètement. De sorte que Marie, en acceptant ce que l'ange lui dit, elle accepte de quoi? Le risque de la mort. Eh bien, si vous voulez être sauvé, vous devez aussi accepter ce risque. Le risque de la mort. Marie est l'exemple pour nous de cette femme qui, en disant son oui au Seigneur, accepte de mourir. Il faudra l'intervention du Seigneur chez Joseph pour qu'il la prenne chez lui. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, chez toi, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. Mais l'ange n'avait pas dit qu'il y aurait cette intervention à Marie. Marie, elle a accepté dans une foi totale. Et j'aime tellement cette expression de Marie quand elle est devant l'ange qui attend la réponse. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ne dit pas, je veux faire quelque chose. Elle dit, je vais me laisser faire. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si vous pouviez comprendre que c'est tout ce que le Seigneur vous demande, vous laissez faire. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va produire la vie en vous. Mais une fois qu'on a la vie de Dieu en nous, on ne peut pas la cacher. Marie, dans les premiers mois, évidemment, une femme enceinte, on ne voit pas tout de suite qu'elle est enceinte, du moins les premiers mois. Mais ensuite, quand une femme est enceinte, son corps même prend une certaine forme qui dénonce ce qui se passe en elle. Et Marie passe par une grossesse, semblable aussi à celle qu'une femme peut avoir. Elle va trouver sa cousine Élisabeth, qui pourra la comprendre, parce que Élisabeth, sa cousine, vient aussi de faire une expérience extraordinaire. Elle, c'est une femme stérile, qui a passé l'âge d'avoir des enfants. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Élisabeth, la femme du vieux Zacharie, attend un enfant. Elle en est au sixième mois. Alors nous voyons notre Marie qui s'en va dans les montagnes de Juda à une carême pour saluer sa cousine. Et quand elle salue sa cousine, l'enfant qui est au sixième mois dans le sein d'Élisabeth tressaille dans son ventre. Et puis c'est la merveilleuse salutation. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne me visiter, etc. Vous connaissez cette salutation d'Élisabeth à Marie. J'aime beaucoup cette histoire-là qui est vraie, parce que je dis quand la vie de Dieu opère dans les âmes, quand on se rend compte, il y a de la joie. Entre deux croyants, peu importe l'étiquette que vous ayez de votre confession, hein, mais si vous avez vraiment la vie de Dieu, quand on se rend compte, on change de trottoir, on détourne la tête. Je voudrais qu'on soit tous comme des Marie et des Élisabeth quand on se rencontre. Ce que j'appelle ce contact des entrailles. Il y a quelque chose qui bouge en nous. Hein. On est heureux de se rencontrer. On n'est pas si nombreux à avoir cette communion avec le Seigneur. Alors quand vous rencontrez quelqu'un qui a la communion avec le Seigneur, réjouissez-vous, tendez-lui la main. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Et pour moi, cette visite de Marie... chez Élisabeth, c'est une visite d'encouragement. Élisabeth va encourager Marie et Marie va encourager Élisabeth. Et alors, c'est cette explosion, le magnifique. Hein? Le vieux Zacharie est muet. L'homme qui aime si souvent parler. Hein? Pendant 9 mois, vous vous rendez compte? Pour un homme, c'est d'être muet pendant 9 mois, par pas d'une femme. Pour un homme. Mais alors, au bout des 9 mois de silence, c'est là qu'on retrouve la valeur du silence, ça explose. Et c'est le Bénédictus que vous auriez trouvé dans le chapitre premier de Luc, où vous voyez un Zacharie qui ne se creuse pas les méninges pour composer le Bénédictus, mais ça jaillit, ça déborde, comme le Magnificat de Marie, c'est merveilleux. C'est rafraîchissant hein, de lire ces chapitres-là. Vous les connaissiez, mais combien nous aimons à les relire, à nous imprégner de ces paroles, combien cela est tonique. Et alors, nous sommes replacés au au centre de l'évangile et de la vérité. Mais vous avez lu seulement depuis le chapitre 2. Hein? Alors, je ne vais pas vous le relire, vous l'avez bien en mémoire, il n'y a pas de choses compliquées dans ce chapitre. La naissance de Jésus va se produire dans la ville que Michée avait annoncée, la ville de Bethléem de Juda. Mais Joseph et Marie, quoique étant originaires de Bethléem, habitaient cette petite bourgade méprisée de Nazareth. Mais pour que la naissance de Jésus ait lieu à Bethléem, bien voilà que Dieu emploie un empereur romain qui décrète qu'il y aurait un recensement sur toute la terre habitée. Il ne sait pas pourquoi il fait ça. Et à cause de ce recensement, Joseph et Marie ont dû aller s'inscrire à Bethléem. Et c'est juste quand ils sont à Bethléem que Marie est à la fin de sa grossesse et qu'elle accouche. Mais voilà la complication. Comme ce sont des gens pauvres, vous avez vu qu'il n'y avait pas de place pour eux. Notez bien cela. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie où allaient habituellement les voyageurs. Alors ce pauvre Joseph, oh, ce qu'il a dû passer comme moment. Où trouver une place pour Marie qui va accoucher? Et il n'y a pas autre chose qu'une grotte, une étable où les bergers mettent leurs troupeaux. Et c'est là que notre Seigneur verra le jour. Eh bien, vous savez que dans ces journées qui vont se passer encore, si nous atteignons Noël, on verra des crèches dans toutes les églises, des belles églises. On dit, nous ne sommes pas comme l'hôtelier de Bethléem, hein, nous avons fait de beaux édifices au Seigneur. Mais si vous n'allez que le jour de Noël dans ces édifices pour y voir un bébé en celluloïde dans une crèche, ça ne vous apportera pas grand-chose. Et moi, ce qui me peine, c'est que ce jour de la naissance de Jésus, enfin qu'on dit être le jour de la naissance de Jésus, est devenu du folklore. Hein? Alors on chante « Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle » avec quelques trémolos dans la voix, et puis une fois qu'on a chanté ça, eh bien, on finit. On sait très bien comment finissent ces parties de Noël. Mais ça n'empêche pas qu'on aurait été à la messe de minuit, ça n'empêche pas qu'on aurait été à la longue veille, si vous êtes protestant ou autre, ou évangélique. On a toujours des rencontres dans ces moments-là. Mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est que c'est vrai qu'il est né dans une crèche. Hein? Jésus est né dans une crèche. Dans le lieu que les hommes réservent aux animaux, dans une étable. Et il était couché dans une crèche. Et alors, qui sont les premiers qui ont été avertis de cette naissance extraordinaire d'un sauveur, des bergers dans les champs? Et Dieu se dérange, hein? Pour qui? Pour des pauvres. Et c'est ça qui est fantastique. Et je voudrais que vous reconnaissiez que nous avons encore un message à apporter aux pauvres de la terre, aux démunis de la terre. Ce sont les bergers dans les champs, dans la nuit, alors qu'ils gardent leurs troupeaux, qui sont avertis les premiers par l'ange qui est déjà venu trouver Marie et qui maintenant vient trouver les pauvres pour leur dire, je vous annonce une catastrophe. C'est ça? Je vous annonce un grand sujet de joie qui sera un petit coin du monde. Sera pour tous les hommes. Et puis, il y a cette multitude d'anges qui viennent encore louer le Seigneur en disant paix aux hommes de bonne volonté. Oh, cette nuit de Bethléem, ce chant des bergers, comme j'aimerais pouvoir vous le montrer, c'est quelque chose d'assez unique. Il est là encore, le chant des bergers. J'aime beaucoup mieux le chant des bergers que l'église de la Nativité. Parce que le chant des bergers, c'est le chant des bergers. On n'a rien construit dessus. Comprenez-vous, c'est encore ce qui est resté naturel. Donc les premiers adorateurs de Jésus ont été des bergers, des pauvres. Mais pour qu'ils aient été adorateurs de Jésus, qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils fassent? Qu'ils manifestent? qu'il croyait les paroles de l'ange. Après avoir été saisi de peur par cette immense lumière qui les aveugle et par cette présence des anges, ils se disent l'un à l'autre, une fois que les anges sont retournés au ciel, « Allons à Bethléem, allons voir !» Nicodème, il a bien été de nuit rencontrer Jésus à Jérusalem. Les bergers se sont dit « Allons voir ce qui est arrivé !» Et ils trouvent effectivement le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche, comme l'ange leur avait dit. Quand on croit la parole, on réalise que cette parole est exacte. Dieu ne vous mène pas en bateau. Dieu ne vous trompe pas. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont vu ces bergers? Ils ont dit, oh, ça sent l'écurie. Nous, les bergers, c'est leur odeur. C'est ça qui est fantastique. Dieu se fait tellement à eux qu'ils n'ont pas même besoin de se changer de vêtements pour apporter leur hommage au Seigneur. Voilà, l'amour de Dieu, il se fait aux plus pauvres, qui peuvent se sentir à l'aise dans une étable, c'est là qu'ils vivent la plupart du temps, eh bien, ils seront les premiers adorateurs du Seigneur. Et cette étable devient le premier temple chrétien où l'on adore le Seigneur. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que Jésus est né dans votre cœur? Vous savez qu'il est né dans une étable. Mais où voudrait-il naître aujourd'hui? Dans mon cœur. Mais vous me direz, ben, justement, mon cœur, quand je le regarde, c'est plutôt une écurie. Ben oui, peut-être. Il y a toute espèce de passion, toute espèce d'animaux. Je ne sais pas si un bœuf a un âne dans votre cœur. Mais enfin, dites-vous bien que Jésus est né là, dans le lieu que les hommes réservaient aux animaux. Eh bien, si même votre cœur est tout souillé et corrompu, laissez le Seigneur entrer. Donnez-lui votre cœur. Ne dites pas, je vais faire le grand ménage. Puis quand mon cœur sera propre, je l'offrirai au Seigneur. C'est pas ça. Il dit, laisse-moi entrer dans ton cœur. C'est moi qui vais te transformer. C'est lui qui fera de ton cœur, quel qu'il soit aujourd'hui, un temple saint à la gloire de son Père. Mais je vous demande, avez-vous cru les paroles de l'ange? Avez-vous, comme les bergers, été jusqu'à Jésus? Et avez-vous pu témoigner, comme les bergers l'ont fait, qu'ils avaient vu le Seigneur? Ils étaient dans la joie. Et ils témoignaient. Est-ce que vous avez déjà témoigné pour Jésus-Christ, que vous le connaissez d'une façon réelle et vivante? Et si vous aviez lu le chapitre 2 de Matthieu, vous auriez vu que Dieu n'avertit pas seulement les pauvres, mais qu'il aime aussi les riches. Oh, vous ne serez pas content, hein, que Dieu puisse aimer aussi les riches. Oui, il les aime aussi, puis vous savez, quand Dieu aime bien les riches, ils font leur cœur, et vous en avez tout l'avantage. Voilà les images d'Orient, des gens riches, qui sont avertis, chapitre 2 de Matthieu, et qui viennent aussi faire un long voyage jusqu'à Jérusalem, qui demandent où se trouve le roi des Juifs, qui apprennent par les docteurs de la loi qu'Hérode a réuni, que Jésus doit naître, que le Fils de Dieu, que le roi des Juifs doit naître à Bethléem. Ils s'en vont à Bethléem, et ils ont des présents, et qu'est-ce qu'ils font? Ils les déposent aux pieds du Seigneur. Un riche, quand il connaît le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas dépossédé par le Seigneur, mais il devient l'administrateur des biens qu'il a et il les met à la disposition du Seigneur. Le Seigneur ne dépossède pas les riches, mais il en fait des administrateurs de ses biens qui sont mis aux pieds du Seigneur. Alors, Jésus élève donc les pauvres jusqu'à lui et il abaisse les riches jusqu'à lui, de sorte qu'ils sont sur un pied d'égalité. C'est là la vraie égalité. Les mages et les bergers peuvent être aux pieds du même Seigneur, dans la même contemplation, dans la même adoration. Puis, alors, quand on revient à l'évangile de Luc, vous voyez qu'à l'âge de 8 jours, le Seigneur est circoncis selon la coutume juive, qui a été enseigné d'abord à Abraham, puis quand Marie après 40 jours, après les 40 jours de, où elle a eu son enfant, se présente au temple. C'est la présentation au temple. Et ce n'est plus des pauvres, ce n'est plus des riches qui voient le Seigneur, c'est un vieillard. Le vieux Siméon, qui survient au moment où Marie et Joseph présentent, selon la loi, leur enfant et offrent les deux tourterelles pour racheter leur premier-né, selon la loi. Et voilà Siméon qui arrive, et qui voyant cet enfant le prend dans ses bras, et vous avez lu ce qu'il a dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Oh, que c'est beau. Le salut de Dieu pour Siméon, c'est qui? C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Mes yeux ont vu ton salut. Il voit ce petit enfant, et en le regardant, il dit, c'est ça le salut de Dieu. Puis il ajoute qu'il sera une lumière pour les nations. Donc on a encore un message pour les nations qui sont dans les ténèbres, qui cherchent à tâtons où est la lumière. Une lumière pour les nations, et puis pour Israël, dans la détresse aujourd'hui, qu'est-ce qu'il sera, le Seigneur, quand il sera reconnu? La gloire d'Israël. Il y a aussi une espérance pour Israël. Nous avons donc un message pour les pauvres, un message pour les riches, quand on prêche Jésus-Christ. Nous avons aussi un message pour les vieillards, comme Siméon, un homme pieux, et puis à ce moment-là où Siméon est dans l'adoration, voilà qu'une vieille veuve, une femme âgée, Anne, qui survient et qui loue elle aussi le Seigneur. Donc le Seigneur, partout où il se présente, il apporte aux pauvres cette bénédiction, aux riches cette délivrance du souci de leur fortune, puisque c'est maintenant le Seigneur qui va gérer tout cela, aux vieillards la paix, et à la veuve, eh bien, la louange dans son cœur. Voilà ce qui arrive quand Jésus entre dans un cœur. Joie aux pauvres, désintéressement aux riches, paix aux vieillards, louange dans le cœur d'une veuve. Et c'est alors que Siméon annonce à Marie, au fond, cette chose terrible, que son fils va être un signe de contradiction et que l'épée va transpercer son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui annonce quoi? La mort de son fils. Une épée transpercera ton âme. Signe de contradiction, cela se fait vite, puisque les mages, avertis par le Seigneur de ne pas retourner à Jérusalem pour dire à Hérode où se trouve le roi d'Égypte, les mages sont repartis chez eux par un autre chemin. Quand Hérode se voit joué par les mages, que fait-il? Il fait massacrer tous les enfants de Bethléem, ce que ça a dû être déjà pour Marie. Mais le Seigneur veille sur son fils, et il emploie l'Égypte comme refuge pour son fils. C'est pourquoi je crois qu'il y aura une bénédiction pour l'Égypte. Encore maintenant, parce que Dieu se souvient de ce que l'Égypte a fait pour le Seigneur. Il ne va pas seulement sauver les Juifs, mais il va aussi sauver les Arabes. Croyez-le. Dieu est le Dieu de tous les hommes. Et notre cœur doit être ouvert aux dimensions du cœur de Dieu. Et après l'exil en Égypte, que vous n'avez pas dans ce chapitre, mais dans le chapitre 2 de Matthieu, vous retrouvez dans ce chapitre Jésus, enfant, petit enfant, à Nazareth. C'est là que Joseph et Marie sont remontés d'Égypte, une fois que celui qui voulait la mort de Jésus fut lui-même mort et enterré. Celui qui voulait la mort de Jésus, c'est lui qui est mort. Et alors Jésus va grandir dans cette ville de Nazareth. Et c'est là que vous pouvez le trouver. Vous avez lu qu'il croissait et se fortifiait en sagesse et en grâce, et que la grâce de Dieu était sur lui. Puis vous avez ensuite le petit incident de Jérusalem. C'est que Jésus a grandi, il a maintenant 12 ans. Et alors, ses parents peuvent le prendre à Jérusalem, parce que tout juif devait monter au moins une fois par an à l'occasion des fêtes à Jérusalem. Alors maintenant, l'âge de Jésus étant là, les parents prennent Jésus à Jérusalem et il est dit qu'il avait 12 ans. Donc, dans l'évangile de Luc, qui est l'évangile du Fils de l'homme, qui souligne l'humanité du Seigneur, vous voyez bien que le Seigneur a réellement été un homme. Vous le voyez à quel jour? Un jour, hein, à sa naissance. Vous le voyez ensuite à sa circoncision, combien de jours a-t-il? 8 jours. Ensuite, vous le voyez au moment de la présentation? 40 jours. Donc, il y a progression. Puis ensuite, vous le voyez à l'âge de 12 ans, quand il va à Jérusalem, et que les parents sont tellement sûrs de Jésus qu'ils pensent qu'il les suit. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Puis, il a réalisé le psaume 27. Il est resté dans le temple de son père. Et là, absorbé par tout ce qu'il voyait et entendait à l'âge de 12 ans, il se trouve soudainement au milieu de tous ces vieux docteurs d'Israël. Et regardez comme la Bible est merveilleuse. Elle nous montre Jésus à l'âge de 12 ans. Est-ce qu'il enseignait ses docteurs? Non, il reste dans l'attitude que doit avoir un enfant. Il leur posait des questions. Et les docteurs de la loi étaient étonnés des réponses qu'il faisait, parce qu'ils se sont tout de suite rendus compte qu'ils étaient auprès d'un enfant pas comme les autres. De sorte que les intelligents du monde ont découvert en Jésus l'intelligent. C'est cela la vraie intelligence. Mettez-vous aux pieds du Seigneur. Laissez-vous déjà questionner par l'enfant Jésus. Et les questions qu'il vous posera vous amèneront à le connaître. C'est ce qui est arrivé au temple de Jérusalem. Quand Marie et Joseph le retrouvent, Jésus leur dit simplement, quand on lui dit, mais comment as-tu pu nous faire une telle chose? Nous étions dans l'angoisse, dans la peine. Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Tout enfant, il est déjà préoccupé par la volonté de son père. Mais quand même, il rentre avec Marie et Joseph, qui n'ont pas compris, mais qui repassent dans leur cœur tout ce que Jésus leur avait dit. Et il est dit, Jésus croissait, verset 52, c'est la fin de ce chapitre, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Puis au chapitre 3, au verset 33, il est dit que Jésus avait quel âge quand il a commencé son ministère? 30 ans. Environ 30 ans quand il commence son ministère. Alors, en vous souvenant de ce que nous avons vu ce matin au sujet de Jésus, nous pouvons dire qu'en Christ, Dieu a paru dans l'histoire de l'humanité afin de relever l'humanité déchue. À cet effet, il a pris notre humanité au berceau et ne la quittera qu'à la tombe, passant par tous les degrés de son développement, traversant successivement tous les âges de la vie dans une nature qui sanctifie toutes les périodes de l'existence humaine. Il a été enfant, il a été adolescent, il est devenu homme fait. Donc il peut nous comprendre à toutes les époques, depuis sa venue au monde jusqu'à son élévation dans la gloire, il a été le type accompli de l'innocence et de la sainteté. Jésus fut donc tour à tour, comme nous vous le disions, adolescent, enfant, adolescent, homme fait. Enfant, qu'est-ce que vous voyez? Il était obéissant et soumis. Adolescent, sans reproche, il sut se garder pur, comme nous le verrons ce soir, de toutes les souillures du monde, et homme fait, comme nous le verrons demain, il nous a montré dans son caractère, dans sa conduite, le modèle de la perfection absolue. Et il s'est arrêté là, comme nous le disions, car celui par qui et pour qui sont toutes choses ne pouvait pas déchoir, il fallait qu'il s'offrît dans toute la vigueur de son âge, dans la plénitude de la vie. Il ne convenait pas, je le répète, qu'il nous fit voir l'image de la décrépitude et de la vieillesse. Eh bien, de même qu'il y a une naissance du Fils de Dieu dans l'homme Jésus, croissance de l'homme Dieu dans la personne du Rédempteur, de même il y a eu, il y a, et il y aura jusqu'à la venue du Seigneur, naissance, croissance du Christ dans les âmes qui lui appartiennent. Est-ce que Jésus en vous est encore enfant? Est-ce qu'il est adolescent? Ou est-ce qu'il est homme fait? Mettez-vous à l'école de Saint Paul, qui dit aux Galates, je suis de nouveau dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ce n'est pas à vous qui devez être transformé par toutes sortes de moyens, c'est vous qui devez laisser le Seigneur grandir en vous. Remettez-lui les clés de votre existence. Alors cet après-midi, dans ce dernier moment, nous voudrions nous pencher encore quelques instants sur l'enfant spirituel du chrétien. Selon Jean 2, que je vous ai cité, la première épître de Jean, tout à l'heure, lorsqu'il s'adresse aux petits-enfants en Christ, à cet âge très tendre, il leur dit la seconde chose que l'on doit savoir, même quand on est petit-enfant en Christ, c'est que Dieu est notre Père. Est-ce que vous le savez? Dieu n'est plus simplement notre Créateur, quand on pense au passé. Hein, d'où venons-nous? On y a Dieu le Créateur. Et puis, il n'est pas non plus le juge qu'on risque de rencontrer, qu'on rencontrera certainement à la fin de notre course. Ce n'est plus le Créateur, vague. Ce n'est plus le juge, inflexible. C'est un Père. Jésus nous a révélé le Père. C'est vraiment cette révélation dont nous avons besoin. Et alors, l'âme est réconciliée avec Dieu, le Père, comme l'enfant prodigue. Est-ce que vous avez connu cette divine étreinte? Tout prodigue que vous étiez, moi aussi j'étais prodigue. Moi aussi j'ai quitté la maison paternelle, dans un sens. Et c'est quand je me suis vu perdu que je suis revenu vers ce Père, mais en alliant, pouvant lui dire « j'ai péché ». Mais qu'est-ce que le Père a fait? Il nous a reproché notre conduite? Relisez ce merveilleux chapitre 15 de Luc, où Jésus nous montre quel est ce Père qui ne fait qu'attendre ses enfants rebelles et repentants. Il le revêt de sa plus belle robe, il lui enlève ses vêtements souliers, il lui donne des sandales à ses pieds, il lui met un anneau à son doigt, donc signe d'une vraie alliance, et puis il dit, celui qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Réjouissons-nous, mangeons et faisons bonne chair. Oui, c'est merveilleux. Eh bien, l'âme qui a reçu Jésus, elle se fait réconcilier avec Dieu, elle sait sur quelle base elle a été pardonnée par le sang du Christ. Vous avez eu la révélation que c'est le sang du Christ qui efface vos péchés. L'âme se livre complètement au Seigneur. Alors, elle est délivrée de la peur de la mort, de la peur du jugement. Parce que pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort? Ce n'est pas tellement à cause de la mort. Mais c'est parce qu'on sait qu'il y a après le jugement. Hein? Après la mort, c'est le jugement. Et puis pourquoi est-ce qu'on a peur du jugement? À cause du péché. Hein? Malgré qu'on dise, j'ai jamais fait de mal à personne, je n'ai pas même tué une mouche. Petit menteur que nous sommes. Hein? On n'a jamais tué une mouche, on a tué des maringouins en tout cas. Alors, ici au Canada. Hein? Mais on n'a fait de mal à personne. Bon. Nous savons bien que nous sommes des pécheurs et on a toujours une angoisse. Parce qu'on se dit, mais j'ai essayé de faire des bonnes œuvres, mais est-ce que ça couvre? Quand vous êtes sur le principe des bonnes œuvres, vous n'êtes jamais sûr. Un jour, vous croyez que ça va, puis le jour après, c'est de nouveau la faillite. Mais maintenant, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la foi. C'est-à-dire en croyance que Dieu nous déclare. Au sujet de son Fils, que Jésus n'est pas mort pour rien, mais qu'il est mort pour des pécheurs. Et que sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon. Eh bien, quel est le sang qui est la base de mon pardon? C'est mon sang? Non, c'est le sang de Jésus-Christ qui me purifie de tout péché. Voilà ce que me dit la parole. Alors, je comprends le pourquoi de la mort de Jésus. L'Esprit m'a convaincu que le salaire du péché, c'était la mort. mais que le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et je sais qu'en Jésus-Christ, par son sang, j'ai été rapproché de lui, que j'ai été racheté, pardonné, délivré, justifié même, réconcilié, et que mon âme est purifiée des œuvres mortes. J'ai plus besoin de me dire quelle œuvre est-ce que je dois faire pour mon salut, mais que j'ai à accepter le salut qu'il me donne. Et une fois que j'ai accepté le salut qu'il me donne, qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a une nouvelle vie en moi qui me pousse à faire des bonnes œuvres, non plus pour mériter le ciel, mais parce qu'il m'a donné le ciel. Œuvre d'amour, œuvre de reconnaissance qui transforme complètement ma vie. Donc, il n'est pas question d'un salut par les œuvres, mais d'un salut par la foi, en la parole de Dieu. Alors on jouit de l'adoption du Père Céleste. On peut dire que le Dieu de Jésus-Christ est notre Dieu. Est-ce que vous pouvez dire ça? Que le Père de Jésus-Christ est votre Père. C'est ce que Jésus ressuscité dit à Marie-Madeleine. Va, dis à mes frères, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Vers mon Père qui est aussi votre Père. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ce que le Père a été pour Jésus-Christ, il veut l'être pour vous. Et que tout ce que Dieu a fait pour Jésus-Christ, il veut aussi le faire pour vous, si vous vous laissez faire. C'est quelque chose de fantastique. Je ne vous raconte pas les histoires, c'est la parole de Dieu. Alors on jouit de cette adoption. Je suis maintenant l'enfant de Dieu. J'ai un Père que je ne peux pas perdre. Et la relation d'enfant dans laquelle nous introduit la foi, c'est la seule relation qui ne peut pas être rompue. Vous êtes d'accord avec moi? Les relations diplomatiques, elles peuvent être rompues. Les relations commerciales, deux associés, peuvent rompre. Les relations conjugales, hélas, peuvent être aussi rompues, mais la relation d'enfant avec leur père ne peut pas être rompue. Quelque soit l'attitude de l'enfant, l'enfant portera toujours le nom de son père. Eh bien, vous êtes introduit dans cette relation d'enfant avec le Père des cieux. Vous êtes adopté. C'est pourquoi Jésus est appelé le premier-né entre plusieurs frères. Jésus est le premier-né et vous, vous venez ensuite. C'est ça qui est fantastique. Pourquoi est-ce qu'il est dit qu'il est le premier-né? Parce que Dieu voulait avoir d'autres enfants, mais qui est la vie même de qui? De son Fils. Et c'est cette vie-là qui va se manifester en vous. Pas une autre vie, pas votre vie améliorée, mais la vie de Jésus en vous. Jésus est le premier-né et vous, vous venez ensuite si vous acceptez l'œuvre de Dieu, comme Marie qui dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». Mais alors, attention, ce qui caractérise l'enfance, c'est quand même la faiblesse, la dépendance et la soumission. Et quels sont alors les besoins de l'enfant tant qu'on est encore enfant en Christ? Bien, le Seigneur l'a montré. Et quand dans les évangiles, vous voyez qu'il rencontre des enfants, vous savez que les disciples reprennent les parents et ne veulent pas qu'on dérange le maître. Et qu'est-ce que Jésus dit? Laissez venir à moi les petits enfants, c'est à de tels qu'est le royaume de Dieu. Quand vous êtes même un petit enfant en Christ, c'est donc à vous qu'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le degré de connaissance que vous avez du Seigneur. Mais petit enfant en Christ, venant de naître à la vie de Dieu, vous avez besoin de la bénédiction du Seigneur. Donc vous pouvez la recevoir. Même si vous êtes né aujourd'hui à la vie du Seigneur, il vous dit, venez à moi. Et il veut vous bénir. Il prend aussi un petit enfant quand ses disciples lui disent, Seigneur, qui est-ce qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, Pierre, viens ici. Il le montre? Non. Il prend un petit enfant, il le met au milieu de ses disciples et il leur dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il faut vous convertir, changer d'orientation, changer votre mentalité, changer de pensée et recevoir ma grâce. Et il nous montre aussi que nous devons faire très attention, nous les plus âgés, vis-à-vis des enfants. Lisez le chapitre 18 de Matthieu. vous qui avez plus de connaissances spirituelles, vous qui êtes un chrétien d'âge mûr ou un chrétien plein de force, ne soyez pas en scandale envers les jeunes convertis. Comprenez-vous ? Envers les bébés en Christ. Ne les scandalisez pas, parce que si vous, vieux chrétiens, vous êtes en scandale à l'œil de ces petits, qu'est-ce qu'il vous faudrait mieux pour vous ? Avoir une meule d'âne autour du cou et qu'on vous ait plongé dans la mer. Vous savez nager avec une meule d'âne ? Il est sévère, le Seigneur. Hein? Alors, ne méprisez pas les jeunes dans la foi. Vous qui êtes plus âgés en connaissance, supportez-les. Et veillez que rien dans votre conduite ou dans vos paroles ne puisse scandaliser des petits qui viennent de croire au Seigneur et puis qui vous voient, vous vieux chrétiens, qui déshonorez son nom. Vous êtes en scandale, ne les scandalisez pas. Et selon Pierre, chapitre 2, verset 2 de la première épître de Pierre, qu'est-ce qu'un petit enfant en Christ a besoin ? De se nourrir de la parole de Dieu, du pur lait intellectuel. Là, Pierre nous présente la parole comme étant le lait des enfants. Hein. Lisez la parole de Dieu. Ce que vous ne comprenez pas, vous le laissez. Mais nourrissez-vous de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que vous allez grandir. Vous ne savez peut-être pas beaucoup de choses au sujet du Seigneur. Mais enfin, ce qui est essentiel, c'est que vous puissiez dire, en tout cas, comme l'aveugle du chapitre 9 de Jean, verset 25, qui avait été guéri par Jésus, et que l'on questionnait au sujet de Jésus, on lui disait, c'est un pécheur, celui qui t'a guéri. Et qu'est-ce qu'il répond ? Mais si c'est un pécheur, moi je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que j'étais un aveugle, et que maintenant je vois. J'ai fait ce qu'il m'a dit, il a mis de la boue sur mes yeux, il m'a dit, va lave-toi au réservoir de Siloé, j'y suis allé, et je suis revenu voyant. Voilà un homme aussi qui est sauvé par sa foi. Il a obéi au Seigneur alors qu'il ne l'avait pas encore vu. Il avait entendu sa voix, mais comme il était aveugle de naissance, il ne l'avait pas vu. Mais il a cru sa parole. Il n'a pas dit, mais qu'est-ce qui me fait mettre de la boue sur les yeux avec de la salive. C'est pas un procédé, ça. Oui, et ça c'est le geste créateur. Vous avez été fait de la poussière. Hein. Alors il lui manquait les yeux. Alors le créateur les lui a mis. Il a mis de la boue, il a ajouté la boue qui manquait. C'est la poussière, c'est le geste du Créateur. Oui, nous pouvons rire, mais moi c'est signé ça, hein. C'est le geste du Créateur. Va, lave-toi au réservoir. Il revient, voyant. Alors il dit, eh bien, moi si c'est un pécheur, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais une chose, j'étais un aveugle et je vois. Puis on le chasse de la synagogue. Puis qu'est-ce qu'il a dit ? Quand le Seigneur le sut, il le retrouva dehors. On peut vous mettre hors de vos églises, on peut vous mettre hors de la synagogue. L'essentiel, c'est que le Seigneur vous retrouve dehors. Et puis il se révèle davantage à lui. Croyez au Fils de Dieu. Qui est-il, Seigneur ? Et je le suis. Et celui qui te parle, c'est lui. Quelle merveille, hein ! Vous avez une relation directe, personnelle avec le Seigneur. Quand vous vous laissez faire par le Seigneur vous révèle davantage de sa personne. Vous voyez, c'est un type qui aime la parole. Vous ne pourrez pas me l'enlever. J'aime la parole. Je m'en nourris, je la mange. Et je ne dis pas qu'elle me tue, mais elle me fait vivre. Cette parole nous fait vivre, comme il est dit dans le psaume 119. Mais alors toutefois, il ne faut pas rester à l'état d'enfant. Hein. Parce que vous vous rendez compte, l'angoisse de la mère, on est tellement heureux, l'enfant est né. Mais voilà, on est heureux de le langer, on est heureux de lui donner son biberon, sinon le sein. Et puis, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, au bout de 3-4 mois, il est toujours dans son petit Moïse, il sourit, il est gentil, et même il ne réveille pas la nuit, mais il ne bouge pas. Un petit enfant qui est tout rose, qui vous fait des sourires, mais qui ne grandit pas, il ne se fait pas de muscles, on commence à être angoissé. Alors donc, s'il y a la vie, il y a croissance, comprenez-le bien. De sorte que la joie qu'on aurait eue à la naissance de quelqu'un, si on ne voit pas l'enfant croître, grandir, on est angoissé, on pense qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors, spirituellement, si vous avez reçu le Seigneur, si vous jouissez déjà du pardon du péché, de vos péchés, ne restez pas là. Le Seigneur a besoin de vous, il veut vous faire grandir. Parce que vous savez, si vous restez à l'état d'enfant, je pourrais vous citer un peu tout ce qui peut arriver. L'apôtre Paul nous dit que les Corinthiens, qui avaient pourtant la vie de Dieu, ils étaient restés des bébés en Christ. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils font des enfants? Ils chicanent, ils se jalousent. Ils disent, non, ça c'est à moi. L'autre dit, non, non, c'est à moi. Hein? Vous êtes des enfants, ne restez pas. Des enfants qui se disputent, qui se jalousent, qui disent, moi j'aime mieux papa que maman, j'aime mieux maman que papa, etc. Ces trucs-là, c'est la petite enfance. Mais plus vous grandissez, plus vous aimez et votre père et votre mère. Alors, pas de division. Si on reste des petits enfants, il y a des divisions. Puis, quand on est enfant, comme dit saint Paul dans le chapitre 13 des Corinthiens, on a une manière de penser qui est une manière de penser d'enfant. Hein. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, puis je parlais aussi comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu homme, j'ai laissé ce qui est de l'enfance. Mais il faut y passer par l'enfance. Vous ne pouvez pas sauter à pieds joints au-dessus de cette enfance. Vous devez passer par l'enfance. Mais on n'en reste pas à l'enfance. Et puis, au chapitre 14, au verset 20, au sujet des dons, 14 des Corinthiens, ne soyez pas des enfants par rapport au jugement. Pour la malice, soyez des enfants. Mais quant au jugement, soyez des hommes faits. Et puis, dans le chapitre 16 des Corinthiens, alors il est dit, soyez des hommes. Vous passez par l'enfance, mais pour devenir des hommes. Parce que dans les Éphésiens aussi, au chapitre 4, au verset 14, il est dit que si vous restez des enfants, vous serez toujours ballottés, ça et là, par tous les vents de doctrine. Dès qu'il y a une certaine doctrine qui passe dans ce monde, vous voyez un tas de gens, et même des gens d'église, qui ne savent plus que croire. Vous n'avez pas de conviction ? Mais vous êtes des enfants. Alors voilà Moon, voilà les témoins de Jéhovah, voilà d'autres, puis vous êtes de nouveau tout brouillé. C'est ça? Tant que vous restez des bébés en Christ, bien sûr, mais si vous devenez des hommes faits, vous connaissez le Père vous instruit, et alors ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, et l'auteur de cette épître se plaint de ça, il dit, j'aurais voulu vous parler de choses profondes, mais vous n'êtes pas capable de supporter, vous en êtes encore au lait. Je ne peux pas vous donner de la viande. Vous êtes restés des bébés. Vous n'êtes pas capable de supporter. Donc, après le lait, qu'est-ce qu'il faut donner à un enfant? Une nourriture correspondant à sa croissance. On lui donnera aussi de la viande. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, on voit que, étant des fils, on accepte la discipline du Seigneur. Puisque nous avons eu des pères qui nous ont disciplinés, maintenant que nous sommes les enfants de Dieu, nous acceptons d'être disciplinés par le Seigneur. Mais souvenez-vous bien de cela. Il n'y a jamais de colère quand Dieu nous châtie. Quand Dieu nous fait passer par une épreuve, il n'y a jamais de colère. C'est jamais dans sa colère. Il nous éprouve, il nous discipline pour que nous participions à sa sainteté. Et quand on est devenu l'enfant de Dieu, quand on grandit, on accepte la discipline du Seigneur. Ce n'est pas toujours réjouissant, on se courbe, on pleure, mais on aime cette main qui nous a éprouvés. Et alors, pour terminer, je dirais maintenant, comment l'apôtre Paul se conduisait vis-à-vis de jeunes dans la foi? Et nous allons terminer par cette lecture. Je vous la cite parce que nous avons tous besoin. Maintenant, vous me direz, mais nous n'étions plus des enfants, nous. Ben, vous êtes des gens âgés, spirituellement. Vous avez plusieurs années dans la vie de grâce. Bien, je voudrais vous dire comment vous devez vous conduire avec les petits-enfants en Christ, les jeunes convertis. Regardez Paul. Il a été le temps que je serai à Jérusalem, s'il plaît à Dieu. Il a été trois sabbats à Jérusalem. Si Dieu le veut, je serai trois sabbats à Jérusalem. Il n'a pu prêcher que trois sabbats à Thessalonique, la ville de Thessalonique. Et il a eu des résultats. Alors, écoutez ce qu'il dit au chapitre 2. Il écrit une lettre à ses jeunes Thessaloniciens, dit tout jeune dans la foi. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, c'est une ville de Macédoine, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons. Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres du Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin pour des enfants. Quand on dit que Paul était un dur, vous avez déjà vu Paul nourrice? Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais quoi? Mais nos propres vies. C'est ça. C'est ça que vous devez sentir quand on vous prêche l'évangile. Que on voudrait pas seulement vous donner l'évangile, mais si vous pouviez vivre vraiment, on serait prêt à vous donner notre propre vie. Tant vous nous étiez devenus chers, c'est beau ça. Voilà comment on doit être avec les jeunes dans la foi. Il faut que les jeunes dans la foi sachent qu'ils nous sont chers, même s'ils font des écarts, que nous les aimons, que nous les supporterons. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Paul, de Dieu, qui nous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Et il dit ça donc à ces jeunes de Thessalonique, et si vous lisez le chapitre premier, vous verrez qu'il peut dire de ces jeunes qui ne l'ont entendu que trois sabbats, vous êtes devenus les imitateurs de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux ça? Vous autres, chers amis, qu'est-ce que vous voulez être? Imitateurs de qui? D'un prêtre, d'un pasteur? Devenez imitateurs de qui? De Dieu. Et puis, vous êtes devenus des modèles pour toutes les églises. Qu'est-ce que vous cherchez maintenant que vous êtes enfants de Dieu? Cherche des modèles dans l'église. Chez les autres, cherche des modèles, puis j'en trouve pas. Finissez cette recherche. Devenez vous-même des modèles pour les autres. Ne cherchez plus des modèles chez les autres. Devenez un modèle pour les autres. Et comment? En ayant les yeux fixés sur Jésus, le parfait modèle. Vous reflèterez Jésus et vous serez sans vouloir un modèle pour les autres. Et puis, vis-à-vis du monde entier, vous êtes devenus des témoins. Des témoins. De telle manière que même les inconvertis, ils parlent de vous. C'est pas vous qui parlez aux inconvertis. C'est les inconvertis qui voient tellement de changements dans votre vie que c'est eux qui font la propagande. C'est beau ça, hein? J'ai fait certaines réunions de témoignages. Parce qu'on entend des personnes qui disent tout ce qu'elles étaient, tout ce qu'elles sont devenues maintenant. Puis quand on les voit de plus près, on voit que ce n'est pas tellement un grand changement. Mais on s'exalte comme ça. Mais quand les gens nous disent, vous savez, hein, ce type-là, il a vraiment changé. C'est le monde qui doit voir ce changement. C'est votre femme, c'est votre mari, ce sont vos enfants qui voient la vie d'un père, d'une mère. Un mari qui voit la vie d'une femme, de sa femme transformée, qui dit, vraiment, c'est valable ce qui s'est passé en elle. Là, il y a des réconciliations qui se font. Et puis, la femme qui voit son mari, qui dit, oui, c'est vrai, il est transformé. Et alors, c'est ces témoignages-là. Vous êtes devenus des témoins. On n'a pas même besoin d'en parler. C'est le monde qui rend témoignage pour vous. Alors, désormais, on quitte l'état d'enfance, puis on arrive à l'âge de la jeunesse spirituelle du service qui nous occupera ce soir. Les jeunes Thessaloniciens ne sont pas restés des bébés en Christ. Ils se sont détournés des idoles. Ils se sont convertis à Dieu, c'est-à-dire ils ont changé de direction. Ils étaient païens avant, maintenant ils suivent le Seigneur et ils vivent dans l'attente de son retour et en l'attendant, ils le servent. Eh bien, que cette grâce soit à vous et à moi aussi et qu'il nous prépare encore pour ces derniers moments dans cette soirée.